Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous parlons aujourd'hui de l'illettrisme en France. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI, a révélé en 2005 des chiffres surprenants. Près de 3 100 000 personnes touchées. L'illettrisme, un sujet encore trop méconnu en France, sur lequel Canal Académie se penche aujourd'hui avec son invitée, Madame Eunice Mangado-Lunetta. Bienvenue Madame à Canal Académie. Pouvez-vous nous rappeler votre fonction à la FEVE ?
Alors déjà, je vais expliquer ce que c'est que la FEVE,
parce que c'est un nom
un peu obscur. La FEVE, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. C'est une association qui a été créée en 91 et qui a pour but de mobiliser des étudiants dans les quartiers, on peut les appeler comme on veut, en difficulté, les quartiers prioritaires, mais en tout cas dans les quartiers où on pense qu'il y a besoin d'une mobilisation solidaire et particulièrement une mobilisation de la jeunesse. Donc en fait, l'idée initiale de l'association, c'était de dire, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes ne sont pas de fiefs individualistes, ils ont envie de se mobiliser, de s'engager. Tout simplement, il faut trouver de nouvelles formes d'engagement. Donc c'est là-dessus que s'est créée l'association. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place des binômes. C'est une forme de tutorat. Et en fait, un étudiant accompagne un enfant ou un jeune qui est ciblé par les équipes enseignantes en début d'année. Et ils forment donc un binôme. Et à travers l'année, ils vont se rencontrer de manière régulière, hebdomadaire. Ils vont travailler, bien sûr, toute la dimension scolaire, parce que l'enfant, il est ciblé avant tout parce qu'il est en difficulté scolaire. Mais l'idée, c'est de dépasser cet accompagnement scolaire et en fait de travailler au-delà, par exemple, d'une aide aux devoirs, etc., de travailler son rapport à l'école, c'est-à-dire lui, pourquoi ça ne va pas à l'école, quel sens il y trouve, quel sens il n'y trouve pas, comment il s'y retrouve, est-ce qu'il est capable de se projeter dans un parcours, quels sont ses centres de curiosité, la question de l'estime de soi, parce que souvent, c'est des jeunes qui sont pas seulement en échec scolaire, mais qui sont un peu perdus face à l'école parce que François Dubé, qui est un sociologue qui a travaillé sur la question, il disait qu'ils n'ont pas envie de jouer parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre. Donc en fait, il y a un désinvestissement du fait qu'ils ont complètement intégré qu'en fait, la réussite scolaire, ça n'est pas pour eux. Et donc l'insertion sociale, déjà, ils la voient mal en fait. Et très très tôt, ils font cette expérience un peu négative comme ça de ce rapport à l'école et qui va déterminer par la suite le rapport à d'autres institutions.
Alors peut-on rappeler ce qu'est l'illettrisme ? On a tendance à confondre un petit peu avec l'analphabétisme. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu là-dessus, s'il vous plaît ?
Tout à fait. Alors nous, on n'est pas spécialiste de l'illettrisme, mais c'est vrai qu'au jour le jour, on est dans des actions qui sont quand même dans le champ de la prévention contre l'illettrisme, voire de la lutte contre l'illettrisme. Alors l'illettrisme, c'est un concept assez récent qui avait été inventé par le prêtre Brzezinski, qui était le fondateur d'ATD Quart-Monde, le mouvement ATD Quart-Monde. Et en fait, à l'époque, le scandale, c'était de se rendre compte qu'on pensait que l'institution scolaire était capable, en France, une fois qu'on était passé par l'école, on maîtrisait en fait les savoirs nécessaires pour une insertion sociale et professionnelle harmonieuse. Donc on était capable de lire, écrire, compter, voilà. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas forcément à maîtriser l'écrit, c'est-à-dire à rédiger un message simple ou à lire un message et le comprendre de manière fine, et que ça n'était pas cette espèce de figure comme ça fantasmatique de l'étranger qui n'est pas allé à l'école ou de l'analphabète, et ça, mais que c'était des gens tout simplement qui étaient passés par le système scolaire et où quelque part le système scolaire n'avait pas fonctionné. Donc c'est intéressant parce que c'est une vision un peu plus fine et puis ça a permis aussi de s'attaquer à un espèce de tabou social et de remettre en question l'école. Donc effectivement, la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme, on va parler d'illettrisme quand quelqu'un est en situation de non-maîtrise en fait de l'écrit, mais qu'il a été, à l'école, il a été scolarisé. Alors que l'analphabétisme, ce sont des personnes qui ont été très peu scolarisées ou voire pas du tout, et qui, de ce fait-là, n'ont pas les compétences à l'écrit nécessaires.
Alors, quelles sont les missions de l'AFEV ? Comment ça se passe sur le terrain ?
Alors, La FEV, c'est une association donc qui intervient en complémentarité de l'éducation nationale. Notre plus grand partenaire à la fois opérationnel et puis financier, c'est l'éducation nationale. L'idée, c'est de dire, voilà, on va intervenir sur à chaque fois un quartier prioritaire. On va cibler des établissements scolaires qui sont prioritaires. Et puis, on va mettre en relation un jeune avec un étudiant, un jeune et sa famille. C'est important parce qu'il y a vraiment une approche complètement globale de l'enfant, du jeune. D'ailleurs, on parle bien d'enfant et de jeune, on ne parle pas d'élève. L'étudiant, il va nouer tout simplement une relation humaine avec ce jeune. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est la première dimension et probablement la plus intéressante. C'est-à-dire, en fait, la spécificité de la FEV, c'est de mettre en relation deux individus. C'est une approche qui est individuelle. Et c'est tout simplement permettre une rencontre. En plus, une rencontre qui, eu égard un peu au profil sociologique et des jeunes et des étudiants, n'aurait pas forcément eu lieu. On a quand même des étudiants qui, même s'ils ne sont pas tous, on intervient sur toute la France, hein, mais même s'ils ne sont pas sur tous les sites socialement favorisés, ils le sont nettement plus, évidemment, que les enfants auprès desquels ils vont intervenir. Donc il y a cette rencontre qui se fait. Et l'idée, c'est que l'étudiant, il représente quelqu'un qui est encore dans son parcours de formation, qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas un spécialiste de l'éducation, de la lutte contre l'illettrisme ou de la pédagogie, mais qui est encore dans un parcours de formation et par contre qui est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, par là où on est aujourd'hui, le jeune qu'il suit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une relation qui est intragénérationnelle. Et puis l'étudiant, il a une place très particulière. Ce n'est pas le parent, ce n'est pas le prof, ce n'est pas le copain. Mais il a une figure comme ça, un peu de tiers. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Mérieux, qui est un pédagogue avec qui on travaille beaucoup, qui dit, c'est intéressant, il remplace aujourd'hui la figure qui est auparavant, parce qu'aujourd'hui les structures familiales ont complètement éclaté, mais avant il y a une figure qui était un peu comme ça, qui était celle de l'oncle. C'est-à-dire, on disait de l'oncle que c'était le père sans le pire. C'est-à-dire un peu celui à qui on va se confier plus facilement, qui va nous emmener vers des endroits voilà, un peu inconnus, qui va faire découvrir des choses, etc. Donc l'étudiant, il occupe un peu cette place-là. Donc il a une action sur le parcours scolaire, les apprentissages, parce qu'il aide concrètement l'enfant à faire ses devoirs, etc. Mais pas que. Il va aussi lui faire faire des sorties, l'emmener à la bibliothèque du coin, l'emmener au CIO du coin, lui demander, bah, tiens, qu'est-ce qui t'intéresse, l'emmener aussi au cinéma, enfin, tout ce qui peut, à un moment donné, remobiliser le jeune, lui faire prendre confiance en lui, ça va être utile parce que ça, c'est un vrai investissement sur, après, sa façon, son rapport aux apprentissages, son rapport à l'école, etc. Faire découvrir un livre qui tout à coup capte l'attention d'un enfant ou d'un adolescent qui se disait non-liseur, qui se disait non intéressé par ça, c'est déjà faire une action de prévention contre l'illettrisme. Parce que si l'enfant il a envie de lire, bah, il va aller plus à la bibliothèque, il va avoir envie de lire, etc. Donc ce sont des choses, en fait, encore une fois, l'étudiant n'est pas spécialiste, mais je crois que c'est précisément sa plus grande force. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire que de la même façon qu'on pense que la lutte contre l'illettrisme est un enjeu national, c'est un enjeu partagé, l'éducation, c'est aussi l'affaire de tous et pas que des enseignants. Mais il faut avoir une vision un peu large, voilà, de cette problématique.
Donc les jeunes, par les jeunes, ça marche.
Ça marche. Alors on peut dire en plus que ça marche parce que jusqu'à présent on le disait comme ça, on faisait les fiers. Mais là en plus on s'est dit au bout de 17 ans, bon bah, il faudrait quand même essayer de voir vraiment ce qui marche un peu plus dans le détail. Donc on a mené une évaluation nationale de nos actions. On a fait faire ça par un cabinet spécialiste en fait dans ce type d'évaluation des politiques éducatives, donc extérieures à la FEV. Et c'était très intéressant parce que ça a permis un peu de mesurer en fait les effets de l'action éducative sur l'enfant, sur la famille, etc. On s'est rendu compte que, c'est ce que je décrivais effectivement tout à l'heure, la dimension la plus importante, c'est la dimension de la rencontre de deux individus. Mais que ce qui était très important aussi, c'était qu'il y a un lien particulier qui se crée avec l'enfant et un lien particulier qui se crée avec la famille. Donc ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, mais pour vous donner un peu une photographie de la FEV, c'est une association qui est nationale. Elle mobilise aujourd'hui 7500 étudiants bénévoles sur toute la France, à peu près sur 33 agglomérations. Et au niveau national, la moitié de ces accompagnements se font au domicile. Ça, c'est très particulier parce que ça veut dire que l'étudiant, il intervient au plus près de l'enfant et au plus près de la famille. Et une des choses qu'a montré l'évaluation, c'est que les familles, c'est un grand débat en France, hein, d'intervenir au domicile des pauvres. Ça ne se fait pas, en fait. Hein. Il y a eu pas mal de réactions parce qu'il y a un côté très intrusif, il y a une peur que l'action se mue en action de contrôle social, etc.
Et alors, comment vous faites-vous pour rentrer dans les domiciles ?
Eh bien, on y rentre tout simplement parce que l'étudiant, il est jeune, il n'est pas perçu comme un spécialiste qui va venir de manière régulière et que, tout simplement, il est bénévole. Ça aussi, c'est une dimension assez importante. Et ça, ça va instaurer un rapport particulier qui va faire qu'il y a un lien de confiance qui se crée. Voilà. Et une des choses qu'a montré cette évaluation, c'est que d'abord les familles perçoivent extrêmement bien la figure de l'étudiant, en fait, sont très très intéressées, mais même heureuses en fait de l'intervention. Donc on voit bien qu'il y a une dimension comme ça de lien social très importante, parce que ces familles sont dans un isolement social, et on reviendra à l'illettrisme parce que c'est pas déconnecté. Donc dans un sentiment d'isolement social très fort. Et là, un étudiant qui arrive comme ça, qui s'occupe chaque semaine de leur enfant, etc., ça a un effet assez fort. Et non seulement sur donc, la famille, mais sur l'enfant, sur son rapport à l'école, sur sa, par exemple, de manière très bête, comment il organise son cartable, comment il prépare son agenda, parce qu'il a compris, en termes de méthodologie, etc., des choses voilà, sur l'organisation, etc., qui jusqu'à présent ne lui apparaissaient pas clairement, qui lui ont été tout simplement décryptés un peu par l'étudiant, mais aussi sur les résultats scolaires. Donc ça, c'était important aussi, parce que c'était une vraie surprise de voir que ça marchait aussi sur, in fine, les apprentissages eux-mêmes. Alors que, comme je vous le disais, nous, on n'est pas uniquement sur la question du soutien scolaire. On va pouvoir donner un coup de main sur les maths ou sur là où l'enfant a des difficultés. Mais on ne va pas faire que ça, parce qu'on pense que l'intervention, elle doit aussi se situer ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche. Ça marche quand même. À la fin, les enfants, ils ont globalement de meilleurs résultats scolaires. Alors, est-ce que c'est seulement l'action de l'étudiant, ou est-ce que c'est un effet comme ça, ou tout simplement l'enfant reprend confiance en lui, donc à partir de là, ça va influer quand même sur un certain nombre de choses à l'école, peut-être. Mais en tout cas, clairement, c'est corrélé. Voilà. Je parlais de la question de l'isolement des familles. Parce que ça, c'est très important, et c'était un des axes du partenariat qu'on a voulu travailler avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a une porosité comme ça. Quand on intervient sur un jeune, et qu'on intervient au domicile familial, notamment on intervient sur une action particulière qui est vraiment pour les tout-petits, hein, qui sont pas encore en CP, qui est basée autour du livre. On s'est rendu compte que, comme on travaillait sur des enfants qui étaient ciblés par les enseignants sur des difficultés ou des retards de langage, ou alors on sentait bien que les familles étaient éloignées du livre, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait auprès de l'enfant pour essayer de le rapprocher du livre, pour l'emmener à la bibliothèque, pour emmener des livres chez lui, pour faciliter son rapport au livre, pour que le livre ne soit pas un objet d'intimidation. Mais on se rend compte assez souvent qu'en fait, au bout de 2, 3, 4 séances, la maman vient trouver l'étudiant et lui dit « Ah mais c'est super, moi aussi j'aimerais bien lire, mais voilà, je ne sais pas très bien, ou alors je ne parle pas français, et comment je pourrais faire moi, etc. » Ce qui est intéressant, c'est que travailler comme ça sur un enfant, ça a un effet sur la famille, qui est en fait une espèce d'écosystème. Hein, vous voyez, ça a des effets comme ça corrélés. Donc, c'est aussi pour ça que ces étudiants sont quelque part, sans même le savoir, sans même s'en rendre compte, des acteurs de la prévention de l'illettrisme et de la lutte contre l'illettrisme, parce qu'avec une action qui n'est pas une action, encore une fois, de spécialiste, ils vont tout simplement faire bouger des choses à la fois chez les enfants et chez les parents.
Comment l'histoire démarre entre un jeune qui aide un jeune ? Est-ce que vous vous adressez à toutes les classes d'âge ?
Déjà, on travaille avec des jeunes qui sont scolarisés. Et on s'intéresse de plus en plus à la question du parcours éducatif. C'est-à-dire, en fait, on pense que, à la fois, on fait complètement confiance aux étudiants, dans la mesure où on leur propose d'intervenir de manière individualisée, comme ils le souhaitent, tout simplement en se mettant à disposition de l'enfant. On ne leur donne pas des cours comme ça, des kits avec voilà, comment tu vas organiser ta séance, première demi-heure tu fais ça, deuxième demi-heure, etc. On les laisse libres. Par contre, il y a une formation qui leur est proposée. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on leur laisse énormément de liberté sur leur intervention. On leur demande surtout d'être à l'écoute de l'enfant. Mais en même temps, l'idée, c'est que l'enfant, selon où il en est dans son parcours éducatif, il ne va pas forcément avoir les mêmes problématiques. Et ce qu'on a repéré, on n'est pas tout seul à l'avoir repéré, c'est qu'il y a des moments de fragilité particulière dans ces parcours éducatifs. En gros, dans le parcours éducatif, enfin le parcours scolaire obligatoire, il y en a trois. Il y a l'entrée dans les apprentissages de l'écrit, en fait, au cours préparatoire. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette action où on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des inégalités dès la maternelle. C'est-à-dire que dès la maternelle, on voit très bien ceux qui, les enfants à qui on lit une histoire tous les soirs, les enfants qui ont déjà compris ce que c'était que l'école, qui peuvent se projeter, etc. Puis ceux qui n'ont rien compris, qui n'ont jamais vu un livre, qui ne sont pas tout simplement dans le bain linguistique en langue maternelle française, etc. Pas forcément qu'ils sont moins bons que les autres, mais c'est tout simplement qu'il va à un moment donné falloir rattraper des inégalités, parce que si on ne le fait pas très très vite, après, elles s'accroissent. Il y a un rapport du Haut Conseil à l'éducation qui est sorti l'année dernière. Donc ça, c'est intéressant aussi, si vous vous intéressez à toute la question de l'illettrisme, de voir que ces problématiques-là, en fond, prennent leurs racines très tôt dans le parcours scolaire. La première chose qui est montrée, c'est que cette charnière grande section de maternelle CP, quelque part, si on n'entre pas au CP avec un peu déjà une espèce de base, alors qu'on n'est même pas encore dans le parcours scolaire obligatoire, ces inégalités, ces retards très très vite pris là, en fait, vont être handicapants pour le jeune plus tard dans sa scolarité. Donc vous voyez, il y a ce premier moment-là qui est un peu un moment à ne pas louper, parce que ce qui est paradoxal, c'est que c'est terrible de se dire qu'il y a déjà des inégalités en grande section de maternelle. Mais par ailleurs, ce qui est rassurant et même assez excitant, c'est que ces enfants, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle de leurs parents, ils ont tous, à cet âge-là, la même appétence par rapport à la littérature, jeunesse. Ils ont tous envie qu'on leur lise des livres. Ce qui n'est pas le cas plus tard pour les élèves, les collégiens qui sont en difficulté, qui n'ont pas forcément tous cette même appétence par rapport aux apprentissages. Donc à la fois il y a quelque chose, oui déjà des inégalités se greffent, mais en même temps on peut quand même penser qu'il y a quelque chose, les enfants sont encore en demande, sont encore curieux, etc. Ça c'est le premier palier. Il y a un deuxième palier qui est extrêmement brutal pour les élèves, qui est l'entrée en sixième. Parce que là, ça va être le passage, en fait, de l'école primaire avec un seul référent, etc., etc., à qu'est-ce que c'est que d'être collégien. Et certains parlent même du métier de collégien. Et en fait, c'est la découverte de l'autonomie. Donc, pour tous les enfants, c'est une difficulté. Pour les enfants dont les familles n'ont pas de capital scolaire important, de capital culturel, c'est parfois ravageur. Donc, on a bien vu là qu'il y a une fragilité très importante. Et enfin, le dernier moment où il y a vraiment aussi, où se cristallisent les inégalités, c'est le moment de la sortie en fait de la troisième avec la question de l'orientation. Et là aussi, on voit, donc là on est en fin de parcours scolaire, et on voit vraiment la différence et les inégalités entre ceux qui ont une stratégie d'orientation et ceux tout simplement qui ont la sensation de subir leur orientation et qui déjà partent perdants parce qu'ils ont la sensation qu'ils vont aller sur une voie qui est une voie de relégation, qui ne les intéresse pas. Donc après, c'est le décrochage, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire et qu'on ne peut pas agir de la même façon si on agit sur des tout-petits en grande section de maternelle, sur des sixièmes ou des troisièmes. Aujourd'hui, la plus importante proportion des jeunes qu'on suit sont des collégiens. Il y a 60% de collégiens. Et puis, on a développé à chaque fois pour ces trois paliers que j'ai cités des formes d'action spécifiques, et notamment sur la question de l'orientation. On essaye de voir en quoi l'étudiant, qui justement n'est pas un spécialiste et encore moins un spécialiste de l'orientation, surtout on ne veut pas qu'il aille marcher sur les plates-bandes des conseillers d'orientation, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que pareil, il peut jouer sur la curiosité, la légitimité, s'autoriser par exemple des filières, puis tout simplement ce truc très bête de, en fait, on ne choisit que ce qu'on connaît. Donc ceux qui ont des référents familiaux ou du réseau, qui fait que déjà ils ont une idée un petit peu de plusieurs métiers qui peuvent les intéresser et comment y arriver, etc. Ils vont toujours mieux se débrouiller que ceux autour de qui il y a très peu de gens qui ont des emplois qui sont stimulants pour eux. Donc déjà, élargir le champ comme ça des possibles, leur permettre de rentrer dans un centre d'information et d'orientation, ces structures existent, bien sûr, mais les jeunes qu'on accompagne, ils ne vont pas y mettre les pieds. Ils pensent que ce n'est pas pour eux, ils pensent qu'ils ne vont pas trouver l'information dont ils ont besoin, etc. Bon. Donc, cette idée de les accompagner pour qu'après, eux-mêmes, voilà, puissent se sentir plus autonomes, que les professionnels, donc les enseignants, les conseillers d'orientation, etc., puissent intervenir. Mais l'idée, c'est qu'il manque cette espèce de figure comme ça qui va, de manière à la fois très subtile et puis encore une fois, le positionnement est très important. Vous me disiez tout à l'heure, comment ça se fait que les étudiants n'ont pas de difficulté à rentrer au domicile des familles, etc. Ben, c'est peut-être parce qu'ils ne se posent pas en spécialiste de la parentalité ou en prof ou en « je vais t'expliquer comment ça marche et comment il faut faire ». Mais plutôt, moi aussi, j'étais en difficulté. Je ne sais pas forcément comment ça marche, mais je vais t'aider, on va chercher ensemble. Voilà, c'est ça le positionnement.
Je vous propose, Onis, de revenir à la question de l'éducation après quelques minutes de pause. On se retrouve dans quelques instants.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Lorsqu'un jeune va à la rencontre d'un autre jeune, pour la première fois, comment ça se passe ?
Alors la première séance, elle est effectivement assez déterminante. D'abord, ça dépend un petit peu où ça se passe. Donc je vous ai dit, un petit peu moins de la moitié des accompagnements se passent au domicile. Sinon, le reste peut se passer soit directement sur les établissements scolaires, soit sur des structures de quartier, type maison de quartier, centre social, etc. Donc la façon dont ça se passe va forcément être liée à l'endroit où ça se passe. Mais par exemple, précisément pour le domicile, on est très attentif à ce premier contact. En général, on demande un peu à l'étudiant comment il se sent, déjà, s'il a besoin d'être accompagné ou pas. Bon, quand on sent que l'étudiant il a envie d'être soutenu à ce moment-là, et c'est quand même assez largement le cas, on essaye pour la première séance d'être présent, en fait. Il y a des sites où ça se fait systématiquement, il y a d'autres sites, enfin, chacun sur nos 33 pôles organise un peu ses suivis comme il l'entend. Mais l'idée étant qu'il s'agit vraiment d'expliquer aux parents qu'est-ce que c'est que l'action, quoi. Parce que les parents, bon, ils ont été au préalable informés par, en général, l'établissement scolaire. Ils ont signé, en fait, une autorisation. Donc,
comment est-ce qu'ils l'accueillent, la décision ?
En général, ils sont très contents. Mais ils sont très contents parce qu'ils pensent que, justement, c'est du soutien scolaire pur jus, en fait. Parce qu'il y a quand même une différence, si vous voulez, dans l'évolution du paysage comme ça, scolaire et éducatif en France. Il y a, depuis notamment les 10 dernières années, une crispation très très forte sur l'angoisse scolaire. Et notamment, les familles, elles, leur obsession, c'est éviter l'échec scolaire de leurs enfants. Donc pour les familles les plus aisées, l'idée de plus en plus répandue que l'école ne pouvant plus rattraper les inégalités sociales, ne pouvant plus être en mesure de garantir à tous en fait une insertion, eh ben, ceux qui ont les moyens, vous avez remarqué certainement qu'il y a quand même un développement assez important du coaching scolaire privé, parce qu'il y a cette idée que l'école ne peut pas forcément répondre à la réussite pour tous, et donc que chacun va être un peu livré à ses propres moyens. Ce qui est plus inquiétant, outre le fait que la France n'est pas le seul pays où se développent de telles officines privées, mais c'est le seul pays, par exemple, où il y a un financement à hauteur de 50% par l'État, par des politiques de défiscalisation, ce qui est très préoccupant. Et je le dis parce qu'il y a un rapport récent du CERC, notamment présidé par Jacques Delors, qui a montré les dangers en fait, du développement de ce type d'officine qui accroissent les inégalités sociales. Parce que donc, les familles qui ont des revenus plus importants vont pouvoir bénéficier de ces prestations. Par contre, les familles modestes sont tout autant angoissées et elles, si elles font appel à de telles officines, en fait, elles vont payer plein pot et vont être doublement discriminés. Donc il y a vraiment une angoisse scolaire très forte, quel que soit le milieu social, mais encore plus, j'ai envie de dire, pour les familles populaires qui ont le sentiment que si elles se mêlent de la scolarité de leurs enfants, ça ne va pas aller en fait. Si elles ont envie que leur enfant s'en sorte, il vaut mieux qu'elles se tiennent éloignées parce qu'elles ont un rapport à l'école soit totalement sacralisé. Ça, c'est notamment le cas souvent pour les familles nouvellement arrivées qui ont une espèce de vision d'école comme ça, où il faut complètement laisser la main à l'enseignant qui a tout pouvoir et les familles, les parents ne s'autorisent absolument pas à aller vers l'école. Au contraire, se mettent en retrait. Ou alors parce que les familles qui ont elles-mêmes eu des expériences un peu douloureuses avec l'institution scolaire ont peur que parce qu'eux n'ont pas vraiment réussi à l'école, bah, que leurs enfants ne réussissent pas non plus et sont dans un sentiment de culpabilisation. Donc c'est quand même une ambiance qui, voilà, depuis, on va dire, 10-15 ans, c'est quand même assez dégradé. Donc, pour revenir à votre question, oui, les familles en général, les parents sont très contents, mais il faut bien leur expliquer, et ça, c'est pas évident, que, attention, l'étudiant, c'est pas un coach scolaire. Il va pas être là pour faire 2 ou 3 heures de maths par semaine. On prend le temps d'expliquer ça aux parents. On leur dit, bon, l'étudiant, il est bénévole. S'il fait ça, c'est parce qu'il pense qu'il peut être utile à un enfant à un moment donné. Donc, il se met à sa disposition. Donc, ça, c'est vraiment important de faire passer ça. Et après, je pense qu'il faut un petit peu de temps. On se rend compte que, en fait, au départ, très souvent, et puis aussi parce que les étudiants, ils sont un peu paniqués, ils ne savent pas quoi faire. Donc, le plus facile, c'est de faire du scolaire. Hein, donc, on va faire de l'aide aux devoirs et ça. Et puis, au bout d'un moment, on va commencer à faire des sorties, et puis on va parler, et puis on va lire ensemble, et puis on va s'échanger, etc. Donc il y a quelque chose qui, au départ, se place sur la sphère du scolaire, mais qui, petit à petit, s'en éloigne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que, parce qu'ils font moins de soutien scolaire, ça va moins produire des effets positifs sur le scolaire. On aurait tort de croire qu'aller à la bibliothèque, c'est du temps perdu, que discuter, c'est du temps perdu, etc., etc. Donc ça, c'est important, mais c'est parfois difficile, en fait, à faire comprendre aux familles, et il leur faut un peu de temps. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on a vu donc dans l'évaluation, c'est qu'in fine, elles sont contentes de l'action. Elles valorisent et elles voient bien que l'action n'était pas du tout superflue, mais que ça a aidé l'enfant. Elles voient bien les résultats sur l'enfant qui va plus facilement à l'école ou au collège, qui comprend mieux les attendus du collège par rapport à lui. Ça, ce sont des choses aussi qui sont validées par les enseignants, qui voient hein, qu'effectivement, en termes de comportement, en termes d'intervention dans la classe, de facilité à s'exprimer, etc., il y a des différences. Donc voilà, il faut faire comprendre aux parents, mais j'ai envie de dire pas que aux parents, que pour aider ces jeunes en difficulté, la réponse n'est pas purement scolaire. Hein. C'est ce que disait donc encore une fois Mérieux. Quelqu'un qui n'aime pas la soupe, on ne lui resserre pas 3 fois de la soupe, ça ne va pas lui faire aimer la soupe. Voilà. Donc, il y a quelque chose de plus subtil à faire. Voilà.
Lorsqu'un jeune rencontre un autre jeune, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire pour la première fois, il va aller chez lui, il va le rencontrer à la fève?
Alors, donc encore une fois, ça dépend, je vous le disais, des mises en place et des endroits, etc. Mais quand ça se passe à domicile, donc l'étudiant se présente accompagné souvent d'un salarié. Alors ça, c'est important aussi. La FEF n'est pas une association composée que de bénévoles. On a une structure importante avec un peu plus d'une centaine de salariés. Et la place du salarié est très importante parce que l'idée est de dire, voilà, on ne lâche pas l'étudiant bénévole dans la nature. Il a un référent, il a quelqu'un qui fait le lien avec l'établissement scolaire, la famille, qui le suit tout au long de l'année, qui va lui proposer des sessions de formation. Dès qu'il a un problème, il peut l'appeler, etc. Donc ça, c'est important, la présence, y compris physique, s'il faut, du salarié. Et puis après, voilà, les étudiants, enfin l'étudiant et l'enfant, ils vont convenir ensemble d'un temps de séance. Les séances sont hebdomadaires. En général, c'est à peu près 2 heures par semaine. Mais on se rend compte en général qu'au domicile, surtout, ça dure plus. Ça dure plus parce qu'après, l'étudiant, il reste. Alors ça, c'est systématique aussi. La famille, une des façons qu'elle a de montrer sa gratitude, Sarah, c'est de proposer le thé, des gâteaux, voire de l'inviter pour des moments festifs, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que l'intervention... Donc c'est vrai que c'est un jeune avec un jeune, mais quand on intervient d'une famille, c'est ce que je disais tout à l'heure, on intervient aussi sur toute la famille, et notamment on dépasse un peu le cadre uniquement du scolaire, mais on dépasse par exemple l'étudiant, il intervient auprès d'un enfant qui a été ciblé, mais très sincèrement, à la fin de l'année, il aura aussi aidé son petit frère et sa petite sœur qui est aussi en difficulté. Il aura aussi filé un coup de main aux parents qui se posaient telle question sur l'école. Parfois, il aura accompagné les parents à un rendez-vous avec un enseignant. Vous voyez, ça dépasse. Donc, nous aussi, on essaye de cadrer pour pas que l'étudiant il se retrouve parfois dans des positions où il y a des demandes qui émergent auxquelles il peut pas répondre. Mais il y a une approche qui est globale et donc il y a une action dont les effets, l'effet aussi de l'action est global.
Sous quels critères sont recrutés les jeunes bénévoles?
Alors, c'est une question intéressante. On n'a pas de critères de sélection des étudiants. On mobilise des étudiants sur l'idée qu'ils peuvent apporter par leur engagement solidaire et bénévole, ils peuvent apporter quelque chose à l'enfant. Après, notre but, c'est ça. Ça fait 17 ans que la FEV existe aujourd'hui. On n'a jamais eu, jusqu'à présent, de difficultés graves parce qu'il y aurait eu un dysfonctionnement avec un étudiant ou quelque chose se serait vraiment mal passé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire... on fait un peu le pari de la confiance. On pense qu'un pan de la jeunesse peut s'investir de manière citoyenne auprès d'un autre et que ça peut produire des effets. Et il ne faut pas être, par exemple, on ne cherche pas à faire un accompagnement spécialement maths, dirigé par des étudiants qui sont plutôt scientifiques. On évite cette logique de compartiment et de spécialisation, puisque précisément, ce qu'on a envie, nous, de montrer, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'éducation, elle doit être comprise au sens large et que si on ne faisait intervenir que des spécialistes, eh ben, au bout d'un moment, ça aurait des effets désastreux sur l'inhibition et des parents et tout simplement des individus en général dans la société. Si on ne peut agir que parce qu'on est spécialiste d'eux, c'est terrible, c'est complètement inhibant. Or, un étudiant, en étant spécialiste de rien du tout, mais tout simplement en se mettant à disposition, à l'écoute d'un enfant qui est en difficulté, qui n'a pas forcément d'interlocuteur, qui manque de confiance en lui, mais il va pouvoir débloquer des petites choses qui vont par la suite avoir des effets plus importants.
Est-ce que c'est les jeunes qui viennent à vous en premier ?
Non, on a justement cette modalité particulière qui est de ne pas être en réponse directe à la demande des familles. D'abord parce qu'on pense que la question du ciblage est importante, qu'on intervient dans les quartiers donc en difficulté et qu'on a vraiment envie que cette action qui est individualisée profite vraiment à ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est pour ça qu'on se repose sur les enseignants, qui sont ceux qui sont au contact en fait avec les enfants et qui vont pouvoir, donc on essaye de voir avec eux en début d'année quels sont les critères de repérage en fait des enfants, donc souvent des critères de difficulté scolaire, etc. Mais parfois on voit que il y a tel enfant qui a un peu des difficultés mais qui pourrait vraiment par exemple s'autoriser notamment au moment de l'orientation. On voit très bien qu'il y a des phénomènes comme ça d'auto-limitation dû à un manque de légitimité et qu'il n'y a pas seulement la question de la difficulté scolaire, qu'il y a aussi vraiment la question de la légitimité. Donc ça dépend, mais l'important c'est de voir en début d'année comment on peut se mettre d'accord avec les enseignants pour justement décider ensemble de à quel enfant on va proposer l'accompagnement.
Vous avez des partenariats avec les établissements et si oui, lesquels ?
On est toujours en partenariat avec les établissements scolaires. Donc, comme
avec
je vous
tous
le disais. Non, sinon on aurait besoin d'un peu plus que 7500 étudiants bénévoles.
Et alors, vous les sélectionnez comment ?
Donc, on arrive, nous, sur des territoires. C'est très important pour nous, la question du territoire, parce que, comme je vous le disais, l'éducation, c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire des territoires. Donc, on cible à chaque fois les établissements, les quartiers où il faudrait intervenir. Et à partir de là, avec les établissements avec lesquels on va travailler, souvent on passe des conventions, et puis on essaye de voir comment monter un dispositif, le nombre d'enfants qui pourraient être repérés, donc le nombre d'étudiants qu'il faudra mobiliser, comment les mobiliser, où est-ce que les établissements scolaires se trouvent dans la ville, est-ce qu'ils sont enclavés, comment nous on va pouvoir les mettre en connexion avec des étudiants qui sont mobiles, mais parfois il y a des quartiers qui sont vraiment enclavés, je veux dire physiquement. Donc ça pose des questions. Donc ça, c'est tout le travail en fait des salariés de l'association.
Est-ce que l'État fait appel à vous quelquefois juste pour vos évaluations, vos résultats ? Est-ce que vous contribuez aussi à la politique de l'éducation en France ?
Alors, c'est intéressant, oui, parce que on est vraiment dans une logique de partenariat. La FEV a été créée en 91, c'est pas pour rien, c'est vraiment l'émergence de la politique de la ville, voilà, c'est Michel Delbarre, Premier ministre de la ville. On est vraiment, nous, des enfants de ce qu'on appelle la politique de la ville. J'ai envie de dire, on est à la fois des enfants de la politique de la ville et aussi de l'éducation nationale. Donc, on est dans une logique... À la fois au niveau opérationnel, on voit bien comment nous on travaille, c'est nos premiers partenaires, les enseignants et les équipes éducatives au sens large. Mais en même temps, au niveau national, on a des partenariats. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement toujours de réfléchir avec les partenaires institutionnels, avec les représentants donc dans les services déconcentrés de l'éducation nationale, mais aussi de croiser les regards avec les responsables des collectivités, avec les associatifs avec qui on va travailler. Donc, au niveau national, l'association essaye d'avoir toujours une réflexion, enfin de nourrir plutôt son action de réflexion. Et c'est pour ça qu'on organise des universités d'été, c'est pour ça qu'on organise des colloques, etc. Parce qu'on n'a pas envie de réfléchir dans notre coin. Et puis, au niveau local, le partenariat est extrêmement important. On a des comités de pilotage. On essaye le plus possible d'avoir les mêmes objectifs, d'avoir des objectifs partagés avec les personnels des collèges ou des écoles sur lesquelles on intervient. Mais encore une fois, ça revient à cette idée que l'école aujourd'hui ne peut pas rattraper seule les inégalités sociales, qu'elle est obligée de s'ouvrir à des partenariats et de se poser les questions de, par exemple, la lutte contre l'échec scolaire ou la question de la prévention de l'illettrisme, non plus toute seule, mais avec divers partenaires.
Pour revenir à l'éducation, peut-on aujourd'hui en France enseigner à tous les élèves d'une même classe la lecture et l'écriture de la même façon ?
Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. D'abord, parce que j'aurais l'humilité de ne pas parler en tant qu'experte ou comme si moi-même j'étais de l'éducation nationale. Je ne peux que vous donner mon regard. Mais peut-être pour vous donner un peu la position de la FEV sur la question éducative au sens large.
Et de l'environnement le plus propice à l'éducation.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est voir un petit peu comment l'éducation nationale s'est construite en France et quelle est sa particularité. En France, l'école s'est vraiment construite contre le territoire et contre les familles. C'est-à-dire que l'idée, c'était que l'école était vraiment la machine comme ça à fabriquer des citoyens français. Et donc, il fallait rattraper effectivement les inégalités sociales, il fallait gommer les différences culturelles et produire dans une ambition comme ça très égalitaire des futurs citoyens qui auraient des savoirs, qui pourraient s'insérer et qui seraient porteurs des mêmes valeurs. Le problème aujourd'hui qu'on a avec l'école, et pour en revenir à votre question, c'est qu'on a le sentiment que l'école ne marche pas pour tous, en fait. Dans les années 60 puis 70, la question de l'échec scolaire n'était pas commençait un peu à émerger, mais n'était pas si prégnante que ça. À partir des années 90, de 94, le taux d'échec scolaire s'est stabilisé à environ une proportion de 20%, qui aujourd'hui semble incompressible. Donc, par exemple, on a 150 000 jeunes qui sortent en fin de parcours scolaire obligatoire, sans qualification nécessaire pour une bonne insertion. Ça représente une proportion de 20% d'une classe d'âge. Ce sont ces mêmes 20% qu'on retrouve à chaque fois. Il y a des évaluations sur, par exemple, l'entrée en sixième, 20% plus ou moins en difficulté. Ça. Donc cette idée que l'école ne marcherait que pour 80% pose question et invite un peu à réfléchir à soit on pense que l'échec scolaire est une fatalité, effectivement, et que ces 20%-là sont incompressibles et que voilà. À la FEV, tout ce qui sous-tend notre action, c'est bien sûr l'idée que non, ce n'est pas une fatalité. Et que pour répondre à la question de l'échec scolaire, et particulièrement de l'échec scolaire qui n'est pas lié qu'aux questions scolaires dans les quartiers, puisqu'on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire c'est lié au rapport à l'école, au rapport aux institutions, aux familles populaires qui se sentent humiliées, etc., etc., l'école ne peut pas toute seule. Donc ça, c'est très important. Et je pense que, alors je ne veux pas rentrer dans des querelles de pédagogie différenciée, etc., parce que je pense que ce n'est pas là où la FEV peut apporter un point de vue intéressant. Mais clairement, ce que nous pensons, c'est que l'idée d'une école sacralisée, refermée sur elle-même, en étant son propre recours uniquement et fermée sur le reste, ça ne peut pas tenir. C'est un modèle qui est aujourd'hui en train d'imploser. Et finalement, quand on regarde à chaque fois les évaluations, les études PISA, etc., on se rend compte, bon, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'Eldorado de la Finlande qui est constamment citée pour faire grincer les dents des Français notamment, mais on se rend compte que ce sont les systèmes quand même où il y a une certaine souplesse, notamment sur l'ouverture de la sphère éducative, pas que à la sphère de l'éducation formelle, c'est-à-dire quand on parle d'éducation formelle, on parle d'éducation nationale, mais aux autres acteurs éducatifs. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on pense que, les étudiants, par exemple, qui sont jeunes, qui ne sont pas complètement formés, qui ne sont pas spécialistes, sont quand même néanmoins des acteurs éducatifs. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, un enfant va passer autant de temps devant ses enseignants à l'école qu'il va passer par ailleurs devant la télé, devant Internet, devant ses amis, devant ses parents. Donc vous voyez, les espaces et les acteurs éducatifs ne se limitent pas bien sûr à l'école. Donc, à un moment donné, de prendre en compte l'articulation possible de ces temps et de ces espaces éducatifs, de faire travailler ensemble les différents acteurs. Et là, il y a la question de la légitimité aussi, parce qu'il y a des acteurs qui sont légitimes, les enseignants sont légitimes, les professionnels de l'intervention sont légitimes. Par contre, les parents, ça dépend, les riches, ils sont plutôt légitimes, puis alors les pauvres, par contre, ils manquent de légitimité tout à coup. Les bénévoles, ils sont très très suspects, donc il y a quand même quelque chose un petit peu à décrisper. C'est le proverbe africain très fameux, il faut tout un village pour élever un enfant. J'ai l'impression que c'est très incantatoire, mais qu'en France, on est vraiment loin et que pour nous, voilà, reconnaître les compétences éducatives et pouvoir articuler tous ces apports-là, ce serait déjà une avancée considérable. Et notamment sur la question des familles, on le voit bien, il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire qui a travaillé sur les situations de réussite scolaire dans les milieux populaires. Il s'est rendu compte que l'un des facteurs clés de réussite pour les enfants venant de milieux populaires, c'est les familles s'intéressent, donnent sens à ce qui se passe à l'école. L'enfant n'a pas la sensation qu'il est pris en étau entre l'école et la famille, sur des valeurs qui sont opposées. Il faut que l'école s'ouvre aux familles, et notamment aux familles populaires, pour pouvoir aider les enfants des classes populaires à se sentir mieux à l'école. Ça, c'est une des revendications qu'on porte.
Merci beaucoup Madame Eunice Mangado-Lunetta pour nous avoir éclairé sur l'illettrisme en France. Je rappelle que vous êtes déléguée aux accompagnements éducatifs de l'AFEV. Vous trouverez plus de renseignements bien évidemment sur le site de l'AFEV, www.afev.org, et sur le site de la NLCI, sur lequel vous pouvez également télécharger le rapport sur l'état de l'illettrisme en France. Je termine sur un appel à bénévoles. Bien sûr, les étudiants intéressés, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'AFEV. Et vous pouvez télécharger cette émission sur canalacademy.com.